Histoire d'archives sur Fréquence Pistradine 99.3 avec Laure Franek. Bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous continuez la suite de l'émission que vous aviez faite avec ma collègue Odile le mois dernier.
Tout à fait. Donc on pourrait appeler ça la suite des chroniques basalpines. Donc je rappelle que le service s'apprête à publier un ouvrage qui fait écho à l'exposition toujours en cours qui s'intitule « La Haute-Provence au gré du temps », qui montre toute une série de clichés anciens des communes du département en les comparant à des clichés pris ces deux dernières années, ce qui permet de mesurer l'évolution des paysages et de nos villages, l'évolution et parfois la permanence aussi. Et beaucoup de visiteurs nous demandaient si un catalogue était assorti à l'exposition. Il fallait prendre le temps de l'écrire, c'est chose faite. Et alors les photographies nous servent de prétexte, comme toujours, à exploiter nos fonds d'archives, notamment les fonds communaux, et à raconter des histoires. C'est vraiment un livre que nous avons conçu comme étant un livre, j'allais dire, cadeau. En plus, il sort juste avant Noël, donc avis aux amateurs, et qui se lit facilement avec de multiples contributeurs qui, à la fois, on se base évidemment sur les archives, mais on raconte des histoires. C'est pour ça qu'on pourrait parler de chronique basalpine. Donc, le mois dernier, j'avais évoqué la thématique de l'eau, qui est très présente dans le département, comme partout ailleurs, et qui était présente, y compris le siècle dernier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et aujourd'hui, je vais évoquer les bâtiments civils. Donc, parce que dans l'ouvrage, on évoque tout type de patrimoine. Donc l'architecture religieuse, évidemment, l'architecture militaire. On évoque des faits divers, des grandes figures du département. Mais il y a une thématique qui est comme un fil rouge aussi, selon les notices, c'est les bâtiments qu'on appelle bâtiments civils. Alors, typiquement, les écoles. Alors, les écoles, c'est très intéressant d'étudier ce qu'on appelait autrefois les maisons d'école, parce que, avec les lois de Jules Ferry, qui donnaient l'obligation de l'école, il y a eu une grande campagne de construction de maisons d'école à travers tout le pays. Alors, ça ne veut pas dire que les écoles n'existaient pas précédemment. Elles existaient, mais comme il n'y avait pas d'obligation scolaire, c'était un peu à la discrétion, j'allais dire, des communautés ou des communes. Pour communauté, quand on parle de l'ancien régime, commune au 19e. Toute une série de campagnes de construction qui, évidemment, se voient dans nos archives où nous avons les dossiers afférents à ces constructions de maisons d'école. Alors, par exemple, on va donner des exemples. Dans l'ouvrage, nous évoquons la petite école d'Aiglin. Donc c'est très intéressant ces dossiers parce qu'on voit tous les débats. D'abord, où est-ce qu'on va construire la nouvelle école ? Il faut que ça soit dans un lieu approprié où tous les enfants, y compris dans les hameaux éloignés, puissent venir facilement. Donc il y a vraiment un vrai débat, déjà pour acquérir tout simplement le terrain et puis trouver l'endroit le plus judicieux possible. Ensuite, il faut savoir que les écoles disposaient du logement de l'instituteur ou de l'institutrice à l'étage. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte parce que souvent, ces salles ont été utilisées, affectées à d'autres usages quand les écoles sont toujours dans les mêmes locaux. Mais il y a aussi tout un débat sur comment loger correctement l'instituteur. Et on voit même la façon dont les logements sont agencés.
Et sa famille.
Et sa famille, alors. Il se trouve que souvent, quand même, en tout cas, là, on est vraiment au début de la grande campagne de construction. En fait, c'est des petits logements. Vous voyez, là, à Aiglin, le logement d'instituteur, il comprend une cuisine, deux chambres à coucher. Donc, on suppose qu'il a au moins un enfant ou deux, mais c'était souvent des célibataires, quand même. Ils étaient jeunes, en tout cas, à ce moment-là. Un cabinet de travail et ce qu'ils appellent une dispense sur le palier, qui est en fait une espèce de petites resserres, et une cave. Donc ce sont des petits logements. Alors, pour parler du logement de l'instituteur, on a travaillé aussi sur l'école de Thoram Haute. Et alors là, c'est assez amusant et c'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant aujourd'hui. Mais là, il y avait deux logements parce que l'école était plus grande que celle des Glins. Donc, il y avait deux enseignants. Et il se trouve qu'il y avait un instituteur et une institutrice. Et le ministère de l'Instruction publique, en fait, souhaite qu'il y ait deux accès séparés au logement pour éviter la rumeur publique concernant l'éventuelle relation entre monsieur l'instituteur et madame l'institutrice. Non, mais ça paraît fou, hein. Donc c'est un courrier de 1881. Donc je vous cite la lettre de l'inspecteur primaire à l'inspecteur d'académie. Pour ma part... Donc il monte deux escaliers, en fait. Pour ma part, pourrais-je assumer la responsabilité des dangers qui pourraient en résulter ? Il ne me semble pas utile d'insister davantage sur cette question. Mais je dois ajouter cependant à la louange des instituteurs et des institutrices que plus d'un hésiterait beaucoup à accepter un poste où le local l'exposerait constamment et inévitablement à la critique, à la malveillance et même à des soupçons injurieux pour l'honneur, pour son honneur. Vous voyez, ça paraît assez fou d'imaginer que donc l'inspecteur se préoccupait de ces choses. Bon, enfin bon, on est en 1881 et on connaît bien la place de la femme à cette époque. Et
hélas,
oui. Alors en 1934, cette école est devenue trop grande. Donc là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la carte scolaire qui est mise à mal avec ces écoles qui se vident. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve absolument de tout temps. Donc là, on est en 1881. En fait, ils avaient prévu un édifice de 16,60 m sur 11 m avec un étage. Et donc, alors, je ne sais pas si on a mis le nombre d'élèves qui était prévu, mais c'était assez important. Parce qu'en fait, voilà, à Thoram, il y a beaucoup de hameaux en fait, autour. Donc on savait qu'il allait y avoir beaucoup d'enfants. Mais en 1934, donc, c'est devenu trop grand. Et l'inspecteur d'académie autorise le maire à réduire les dimensions des deux classes destinées à l'origine, chacune à recevoir 2 fois 39 élèves. Donc c'était quand même beaucoup. Et en 1934, il y a seulement 17 garçons et 16 filles qui sont inscrits. Et la cause, c'est l'exode rural. Donc là, on est en 1930. On est vraiment au pic de la population rurale en France. Et après, ça ne fait que décroître. Sachant que l'exode, on en a déjà parlé à cette émission, a démarré bien avant la Première Guerre mondiale dans notre département. Voilà. Alors travailler aussi sur les écoles, c'est aussi la possibilité, en fonction des dossiers, d'avoir des informations sur... donc on a vu le nombre d'élèves. Alors par exemple, Beaujeu, 1er octobre 1917, il y a 3 élèves seulement qui font leur rentrée. Vous imaginez, 3 élèves.
Ah, c'est pendant la guerre aussi.
Alors c'est pendant la guerre. Alors justement, donc ces dossiers, donc là... C'est souvent la série T chez nous qui relève de tout ce qui concerne l'instruction, nous permet d'en savoir un peu plus sur la façon dont l'école se passait. Donc on est à Beaujeu, donc seulement 3 élèves qui font leur rentrée, 2 filles au cours élémentaire et 1 garçon. Alors la rentrée, c'est le 1er octobre. Donc déjà, je parle de ça parce que je vais vous parler aussi du calendrier scolaire. Là aussi, il y a tellement de débats aujourd'hui sur le calendrier scolaire. Vous allez voir le calendrier scolaire de l'époque. Donc les élèves font leur entrée au 1er octobre. Donc on sait que les vacances, les grandes vacances, entre guillemets, étaient liées aux travaux des champs, parce que les enfants aidaient leurs parents. Le 10 octobre, comme il y a un petit Marcel qui se joint en groupe, et alors la motivation, parce qu'en fait l'institutrice note les arrivées au fur et à mesure, c'est que jusque-là il était occupé à la garde des troupeaux. Vous voyez, là c'est clair, le travail des enfants, c'était une réalité. Et c'est vrai que cette tâche de garder des troupeaux était réservée aux enfants. Mon père, qui n'est pas si vieux que ça, quand il était enfant, gardait des troupeaux. Donc vous voyez, c'est une occupation qui a perduré. Alors il y a d'autres raisons. Les parents, en fait, justifient quand même l'absence, parce que l'école est malgré tout obligatoire. Donc ils expliquent l'enfant garde des troupeaux. On a aussi une petite Joséphine qui, elle, est absente, par exemple, tout le mois de décembre. Et alors, l'explication avancée par les parents, c'est qu'elle travaille parce que sa maison a été victime d'un incendie. Donc on comprend que l'enfant, elle aide ses parents à retrouver un logement décent. Alors, les congés. Alors, vous allez voir les congés. Donc, ils démarrent le 1er octobre. À la Toussaint, ils ont 3 jours. À Noël, Ils ont du 24 décembre au 3 janvier au matin. Là, on retrouve à peu près les vacances que nos enfants ont aujourd'hui. À Carnaval, 2 jours seulement. Pentecôte, 2 jours seulement. Et alors, hebdomadairement, il y a 2 jours de repos hebdomadaire. On a l'école primaire. Hein.
Avec le jeudi.
Voilà, exactement. C'est le dimanche et le jeudi. Hein. Tout à fait. Et l'année se termine par l'examen du certificat d'études qui se déroulait le samedi 29 juin. Et donc les grandes vacances, les fameuses grandes vacances, débutaient fin juillet en réalité. Mais en fait, il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient plus là dès le mois de juillet parce qu'ils aidaient leurs parents à la ferme.
Et entre le 29 juin et fin juillet, qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Entre le 29 juin et...
Bah, parce qu'il y a l'examen de certificat d'études.
Oui.
Donc ça ne concerne pas tout le monde.
Je veux dire, mais... à mon avis, il devait y avoir pas mal d'absentéisme et il devait déjà aider à la ferme. Voilà. Alors après, toujours pour Beaujeu, parce qu'on a des petites informations, et notamment pendant la guerre. Donc par exemple, l'année scolaire 1918-1919, donc on est juste après la guerre, l'année a mal commencé parce qu'il y a eu une épidémie de grippe. Et donc, de tout le mois d'octobre jusqu'au 15 novembre. Et le 14 décembre, les enfants sont renvoyés chez eux parce qu'après la Grande Guerre, on a donné un jour de congé. Alors, c'est mis dans le dossier donné par le président Wilson. Donc, c'est assez amusant de voir ça. Et donc, l'hiver 18-19 est rude. Hein, et donc, les enfants sont très malades. Évidemment, pendant la Grande Guerre, beaucoup d'absentéisme. Hein, il y a entre ceux qui remplacent tout simplement les papas partis à la guerre. Il y en a qui vont aux funérailles des voisins. Il y a un enfant qui est dit ne pas aller à l'école en 1915 pendant 5 jours parce que son papa est parti à la guerre. Donc voilà. Donc c'est intéressant parce que il y a vraiment dans ces dossiers, on voit aussi en filigrane la vie des familles. Et puis il y a aussi, et ça c'est aussi quelque chose qu'on oublie dans ce temps où la voiture est omniprésente, c'est le mauvais temps qui empêche les déplacements. Les enfants, comme les parents, se déplaçaient à pied. Et donc dès qu'il y avait du mauvais temps, les enfants ne pouvaient pas venir. Donc par exemple, dans le mois de février, il y a 5 enfants sur les 10 que comptait l'école. On est donc pendant la guerre, hein, qui ne viennent pas à cause de la neige. Il y a aussi les crues. Par exemple, là, il y a la fameuse petite Julia qui ne peut pas se rendre à l'école à cause de la trop grande abondance d'eau à passer. Bon, ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Mon fils a raté la première heure de cours quand il y a eu la grosse pluie parce que le pont, vous savez, le pont en dessous, le tunnel ferroviaire, là, juste au niveau du train d'Épinay, quand il pleut beaucoup, ça, c'est un vrai torrent. Donc. Il a pas pu franchir. Enfin, il l'a franchi, mais il était très, très mouillé. Donc, il a pas pu... Il a raté la première heure de cours. Donc, vous voyez, finalement, il y a des permanences. Voilà. Et donc, vous voyez, en juillet 15, il y a seulement 4 élèves qui sont assis face à la maîtresse. Vous voyez, vous me disiez, est-ce que les enfants venaient en juillet? Je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne venaient plus pour aider leurs parents. Donc, voilà. Donc, ces petites vies scolaires qui permettent de se rendre compte un petit peu de la façon dont les gens vivaient. Pour terminer sur les écoles, évoquer le cas de l'école de Puymoisson, parce que c'était vraiment une grande école. En juillet 1883, l'inspecteur rapporte qu'il y a 70 garçons et 42 filles. Donc c'est quand même beaucoup pour des écoles primaires qui suivent les enseignements dans des locaux qui sont trop exigus. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement il y a une nouvelle école qui va être construite. Voilà. J'en ai pas tout à fait fini avec l'école, parce qu'il y avait quand même un...
Mais vous êtes chez vous.
Voilà. Non, mais parce qu'il y a un dossier qui est assez amusant, qui est le dossier qui concerne Mison, avec notamment la maîtresse de la Sylve de Mison. Alors, c'est amusant parce que dans ce dossier, on a carrément des devoirs corrigés par la maîtresse. Et donc, on voit déjà ce sur quoi la maîtresse faisait travailler les enfants. Et puis, la façon dont elle pouvait réprimander par copie interposée ses élèves. Vous allez voir, c'était quand même pas très tendre. Donc, la sévérité règne à l'école de la Sylve, a écrit M. Labadie, qui a rédigé la notice sur la fameuse maîtresse de la Sylve de Mison. Donc, il y a 38 habitants dans ce hameau en 1926. Il y a 181 habitants pour la section de la Sylve. Donc il y a quand même beaucoup d'habitants dans ce hameau. Et l'institutrice, qui s'appelle Madame Raymond, dispense son enseignement à la classe des filles. Et alors, elle, Elle n'est pas tendre, Madame Raymond. Alors, à Marcel, elle écrit dans la marge d'un exercice sur la chasse. Quelle orthographe pitoyable vous avez. Vous ne réfléchissez nullement à ce que vous écrivez. Puis vous ne savez rien, rien de la grammaire. Vous n'étudiez pas du tout vos livres. Résultat, 5 sur 10. Et 4e sur les 4 que compte l'élève. Plus loin dans le cahier de classe. Très mal, 0 point. Rien de bon, mal, 1 point. Nul, très médiocre, 3 sur 10. Donc c'était pas très encourageant pour les élèves. Alors Simone du cours élémentaire n'est pas épargnée. Alors l'appréciation de sa copie, alors il faut une copie sur les croisades, alors elle est sans appel. Bien mauvais travail, vous ne savez pas du tout votre histoire, vous n'apprenez jamais vos leçons, aussi vous ne faites que de mauvais devoirs, très médiocre, 3 points. Alors sa rédaction...
Pour le cours élémentaire.
Oui, cours élémentaire sur les croisades en plus, vous imaginez quoi. Alors... Elle fait une rédaction aussi. Vous n'avez rien écouté des explications. Vous faites des travaux incorrigibles. Il n'y a rien de bon. Je dois refaire tous vos devoirs. Alors, il y a quand même une petite Jeanne qui reçoit les compliments de la maîtresse et qui dit « Jeanne travaille, c'est une bonne élève », écrit-elle à ses parents. Voilà. Alors, sur quoi travailler les enfants? Alors, la vie à la campagne est célébrée dans des exercices. Par exemple, on a une dictée qui a été donnée en 1928 qui s'appelle « L'erreur du paysan ». Je vais vous la lire parce que vous allez voir un peu, c'est quand même pétri de morale. On est dans la morale rurale, morale républicaine, voilà, on éduquait les enfants ainsi. Donc voilà la dictée. Les paysans envient les ouvriers, les employés, les citadins, parce qu'ils ne connaissent pas toutes les conditions de l'existence des villes. Alors ils comptent le gain comme économie de l'ouvrier. L'ouvrier travaille toujours dans son usine où l'on étouffe, les congés sont très rares. Les travaux de la campagne sont pénibles dans la belle saison, mais que de moments de loisir en hiver ou quand il fait mauvais temps. Allons, amis paysans, comprenez votre bonheur. C'est un appel à la paix sociale. Donc voilà. Alors effectivement, il y a, comme je disais, il y a aussi la morale, les règles d'hygiène aussi. Hein. Alors par exemple, dans l'exercice d'écriture, voilà ce qu'on faisait recopier aux enfants, parce qu'on faisait des lignes. Hein. Ne buvez pas de l'eau froide quand vous êtes en sueur. Ouvrez toutes grandes les fenêtres de vos chambres en vous levant. Défaites votre lit. L'eau fraîche et l'air pur sont les deux meilleurs médecins. La violette est l'emblème de la modestie. Comme elle, soyez modeste, vous serez bon. Voilà, donc ça c'est le message aux petites filles. La modestie, hein, c'était quelque chose de très très important pour les jeunes filles. Il fallait être modeste. Alors, en gros, rester à sa place. Je la fais courte, mais c'est clairement ça. La morale républicaine, donc un exercice proposé en 1928 qui porte sur la société d'Ancien Régime. Alors la question était, que fallait-il pour devenir colonel? Pourquoi le lieutenant que vous voyez à la page 124 ne sera-t-il pas colonel? Alors on a, ce qui est amusant, c'est qu'on a la copie d'une petite Anna qui répond. Ce qu'il fallait pour devenir colonel, c'est qu'il fallait être riche. Parce qu'en ce temps-là, il fallait acheter le grade de colonel, qui coûtait fort cher. Et pour devenir colonel, il fallait avoir des amis auprès du roi. Le lieutenant que je vois à la page 124, il ne sera jamais colonel, parce qu'il est pauvre et il n'a pas d'amis auprès du roi. Ainsi, en ce temps-là, des hommes arrivaient à de belles places sans les avoir mérités, et d'autres n'étaient pas récompensés. C'était une injustice.
Ça change pas beaucoup.
Hein. Ah, ça, c'est votre opinion. Alors, c'est pas fini. Et ce lieutenant aurait dû arriver au grade de colonel parce qu'il avait reçu des blessures à la guerre et il faisait bien son service. Alors, la maîtresse répond quand même passable. Voilà. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça. La République a quand même, est quand même bonne fille ou bonne mère. Je sais pas comment, bonne mère, on va dire. Oui, bien sûr que les inégalités sociales continuent à être produites, mais on est quand même dans un système où l'école permet encore, heureusement. De pouvoir passer outre ces jeux de réseau. Après, le réseau, hein, ça, c'est quelque chose... Les carnets d'adresses, on va dire, ça, c'est quelque chose qui sera toujours cultivé. Voilà, bah, sur cette morale républicaine, je vous propose d'écouter David Bowie, un morceau intitulé « Velvet Goldmine ». You got crazy legs, you got amazing head, you got wings on your fingers and your hair's hot red, you got a place on my tongue, name on the sun, I cut your bones on my breast, control the
Velvet goldmine, you struck me like the rain. Snake it, take it, bind the princess, you must stay. Velvet goldmine, naked on your chain. shame. I'll be your king, volcano, ride for you again and again, my velvet gold mine. You're my taste of trap, I'll be your master chef. I'll stop your hell, for can't you make me jump my feet? So you give me your hand, give me your sound. Let me see what your face is falling on, I can't stand. Ooh, clutch your makeup, velvet gold. Princess, you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king volcano, ride for you again and again, my velvet gold mine.
Bonjour à tous. Alors, nous avons parlé des écoles dans notre beau département, hein, toujours pour faire suite à ces chroniques basalpines, hein, j'aime bien ce terme-là, qui est évocateur. Alors, d'autres bâtiments civils qui sont évoqués dans l'ouvrage à paraître en décembre, publié par notre service, les postes. Ah, les postes, c'est aussi très intéressant, c'est comme les écoles, hein, il y en a dans beaucoup de villages. Et là aussi, suivre les différents chantiers des postes, c'est en filigrane comprendre l'émergence de la société de communication et la façon dont ça s'est implanté durablement. Et nous sommes toujours dans la suite de ce grand mouvement qui a débuté dès la fin du 19e siècle avec l'essor d'abord du téléphone, hein, puisque le réseau de postes... Alors évidemment, il y avait le courrier postal au préalable, hein, mais le grand boom, j'allais dire, des postes dans les communes, c'est l'essor du téléphone. Donc ainsi, nous avons évoqué le village de Montagnat, qui a 541 habitants en 1896. À l'époque, je rappelle, parce que c'est assez amusant, on l'a peut-être oublié, que l'usage pour évoquer cette commune était de l'appeler Montagnac les truffes, à cause de la production du fameux tubercule, mais qui, voilà, visiblement, la mairie n'a jamais cherché à officialiser ce nom, donc ça est resté Montagnac-Montpezat maintenant. Et donc, Montagnac, en 1896, n'est pas à l'écart de ce mouvement, de grand mouvement de construction de postes. Donc, en 1881, le conseil municipal vote pour recevoir un bureau télégraphique. Alors, les années passent, mais c'est comme pour l'eau, hein, entre le moment où les élus se décident pour formaliser leur désir de construire telle ou telle chose, et puis le moment où ils arrivent enfin à passer à l'acte, il y a souvent beaucoup de temps qui se passe. Et donc, il y a finalement, en 1889, donc presque 10 ans après, un bail à ferme qui est signé entre l'administration des postes et la commune. Alors, la poste est installée dans une maison, la maison dite de la veuve Guède, qui loue, en fait, tout simplement sa maison et pour une redevance annuelle de 125 francs. Oui, on a vraiment tous les détails, à la commune, donc une maison qui est place du château et qui est destinée à l'installation du bureau du facteur boîtier et du logement du titulaire. Donc, on appelle ça le facteur boîtier, en lien avec les boîtes à lettres. les baux sont signés. Et alors, l'administration, on sait aussi comment était aménagé le bureau des postes. Et là aussi, exactement comme pour l'école, il y avait un logement pour, alors on appelait ça le receveur des postes. Donc là, en 1911, la poste à Montagnac, elle a une salle d'attente, un bureau, un bûcher au rez-de-chaussée, parce que ça, on se chauffait au bois. Et au premier étage, un appartement qui est plutôt spacieux pour le coup, pour destiné au receveur. Donc une cuisine, une salle à manger, avec deux placards, est-il précisé, un salon avec une alcôve et un cabinet, et deux chambres à coucher, avec un, notamment l'une avec un balcon. Il y a des WC, ce qui est pour l'époque assez,
moderne.
Assez moderne et confortable. Il y a un grenier. Et donc, on sait même que des travaux sont prévus, du vert clair pour les murs, blanc pour les plafonds, soubassement couleur noyée. Donc voilà, c'était des bâtiments qui étaient soignés et on cherchait le confort du public, mais aussi du personnel, enfin, du receveur. Seul le receveur était logé. Il est même prévu une cave pour conserver le vin, est-il précisé. Voilà, donc voilà, ça à l'école de l'école, pardon, la poste de Montagnac. Une autre école, une autre poste étudiée, c'est celle de Saint-André-les-Alpes. Alors là, c'est intéressant parce que Saint-André-les-Alpes, là justement, on est en plein boom du téléphone. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, alors ce qui se passe, c'est que en 1951, puis finalement construit là aussi presque 10 ans après. Un nouvel hôtel, on appelait ça l'hôtel des postes, est construit. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme développement du trafic des télécommunications et le directeur départemental des postes estime, pour justifier la dépense de créer un nouvel hôtel des postes, aurait doublé sur un an, entre 1955 et 1956. Du coup, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelait un groupement téléphonique qui est mis en place, mais qui est déjà trop à l'étroit, parce qu'ils sont censés installer à nouveau ce qu'ils appellent une sixième position de travail. Rappelez-vous, hein, il y avait des... rappelez-vous, peu de gens finalement ont connu ça, hein, mais dans les films on voit encore, hein, ces opérateurs de téléphone, vous savez, avec les fiches, voilà. Donc c'était des positions de travail, et plus évidemment il y avait de flux téléphoniques, ben, plus il fallait de positions de travail. Alors, l'usage du téléphone s'est vraiment généralisé à cette période, et les campagnes n'y échappent pas. Et ainsi, dans le dossier, alors ça c'est un dossier... qui se trouve dans les archives de la préfecture, où évidemment il y a des échanges pour justifier de la création d'un nouvel des postes. Il y a, dans les dossiers préfectoraux, il y a souvent des revues de presse. Évidemment, dans les préfectures, on surveille la presse, on surveille dans le sens où on regarde ce qui est dit de la vie politique et locale. Et donc il y a un article de Nice Matin qui écrit, parce qu'il évoque déjà le projet de construction de l'hôtel des postes, c'est en effet en matière de télécom, alors c'est mis entre guillemets, que l'urgence de la construction de l'hôtel des postes de Saint-André se faisait le plus lourdement sentir, afin de pouvoir mettre en service un meuble du type multiple qui permettra aux services techniques de l'administration postale d'améliorer grandement les relations téléphoniques en direction de la Haute-Vallée du Verdon et de la région d'Hainaut. Il est en effet bien inutile de souligner l'intérêt de cette amélioration dans des régions à vocation touristique indéniable. On est dans les années 50, hein, et qui connaissent d'ailleurs une faveur sans cesse accrue auprès des touristes et des estivants. Donc, là en plus, dès les années 50, la vocation touristique du département est déjà mise en avant pour justifier la création d'infrastructures. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce dossier, c'est que la commune a la maîtrise de l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est elle vraiment qui avance l'argent, avec l'approbation des plans, évidemment, par l'administration des postes, parce qu'en fait, la commune voit très bien son intérêt à elle, hein, de créer un tel outil. Mais dès le début du dossier, le rachat par l'administration des PTT est envisagé. Donc, en fait, ça permet à la commune d'avancer l'argent, de suivre les travaux. Mais in fine, c'est un bâtiment qui rejoindra le giron de l'administration centrale. Et c'est toujours des montages qui se voient toujours. Hein, c'est assez fréquent. Des fois, c'est le contraire, mais bon, c'est souvent dans ce sens-là. Donc la construction est projetée sur une parcelle qui appartient à un particulier. Il se trouve qu'il y a un accord amiable impossible, hein, tout simplement sur le montant. Évidemment, le particulier en veut un maximum. Et donc il faut une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour arriver à finaliser. La population est acquise au projet. Alors, j'ai trouvé ça amusant parce qu'il y a juste un opposant qui s'exprime. Alors, on a le courrier de l'opposant qui est envoyé au préfet, hein, qui râle contre ce projet d'hôtel des postes. Et le courrier est conservé dans le dossier. Donc, il explique « À la suite de l'enquête sur le plan d'urbanisme, je désapprouvais l'implantation future de la poste. J'en précise à nouveau les raisons. La grosse masse de l'église paroissiale projettera son ombre sur une bonne partie de la journée sur le nouvel hôtel des postes et le masquera totalement à l'est où se concentre toute l'activité du village. » A priori, c'est le seul grincheux à avoir exprimé son mécontentement. La poste a bien été construite. Elle n'a guère changé depuis les années 50. Dans le livre, on voit la photo au moment de sa construction, juste après sa construction, tout début années 60. Et aujourd'hui, il y a très peu de choses qui ont changé dans ce bâtiment.
Même l'ombre est restée.
L'ombre est sans doute restée, car le soleil est, Dieu merci, resté le même. Voilà, là aussi, au premier étage, un logement pour le receveur des postes, deux chambres, un séjour avec un hall d'entrée, une cuisine, salle de bain. Et il y a, alors ça c'est amusant, une chambre aussi pour le suppléant en cas d'intérim. Voilà, si jamais il y avait un intérim, ben on pouvait le loger. Tout sera donc prêt pour servir au mieux le public. Voilà, donc les postes, là aussi, hein, suivre les chantiers de construction de postes comme ceux des écoles, ça permet vraiment de suivre l'évolution d'un village. Alors, autre bâtiment civil intéressant et qu'on retrouve dans toutes les communes, c'est le four communal. Là aussi, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, autant les écoles. Les anciennes écoles ont souvent été réaffectées, sont dans les tout petits villages. Parfois, elles avaient une vocation double, hein, mairie-école. Les hôtels des postes, il y en a certains qui sont toujours là, mais d'autres ont été carrément supprimés. Le four communal, on en voit souvent les vestiges encore, mais des fois on oublie complètement que c'était un four communal. Alors on a travaillé sur le four communal de Villars-Colmar. Et alors là, c'est intéressant parce que le conseil municipal explique, alors on est en 1909, hein, qu'il y a deux anciens fours à chaque bout du village qui existent, hein, mais qui sont ruinés. Et que les villageois aimeraient bien que ces fours soient remis en service pour pouvoir faire cuire leur pain. Donc ils décident finalement de construire carrément un nouveau four communal avec là aussi une chambre à pétrir et un logement pour le boulanger. Donc là aussi c'est intéressant parce que vous savez aujourd'hui pour faire revenir des commerces, on essaye d'attirer justement des commerçants en proposant à la fois un outil de travail et un logement. Là on est en 1909, hein, on était déjà dans ces enjeux-là. Donc finalement, le four communal avec le logement du boulanger est bien édifié. La commune réceptionne les travaux en 1911. Trois pièces, hein, le logement du boulanger, ça reste quand même assez sommaire. Et là aussi, c'est très intéressant. Personne ne répond à la mise aux enchères publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulanger intéressé pour venir s'installer à Villars-Colmar en 1909. Et finalement, la municipalité qui a quand même investi dans ce four décide de laisser le rez-de-chaussée à la disposition des habitants, en fait, de manière comme autrefois on pouvait faire. Et c'est eux qui doivent gérer ce qui sera finalement un équipement collectif. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a encore quelques villages, hein, dans l'arrière-pays où le four communal est encore en activité. Moi, j'ai randonné dans le parc du Mercantour il y a 2 ans. Alors, c'est à Roure, hein, où vous avez le four communal. Alors, on n'est pas dans le 04, hein, on est déjà dans le 06. Le four communal est toujours là. Et ils font venir un boulanger qui est un peu plus bas, dans un village un peu plus bas, qui vient une fois par semaine, qui utilise le four, qui vend le pain, en gros, pour la semaine, plus pizza, pissaladière aux gens du village, et qui repart ensuite. Donc, il vient juste à la journée, enfin, peut-être sur 2 jours, le temps de préparer son pain.
Je crois que c'est du côté de la Javie aussi, une fois par an.
Ouais.
Il y a le four qui est remis en fonction.
Mais là, pour le coup, on est plus dans le folklore, parce que bon, la Javie est quand même assez près d'un bourg, mais dans Roure, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est quand même assez haut. C'est pas très accessible. C'est un vrai enjeu pour une commune d'avoir alors même pas un dépôt de pain. Alors, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui fabrique le pain à l'année. Voilà, donc dernier, peut-être que j'aurais le temps d'en faire encore un autre supplémentaire, mais donc là on a évoqué les écoles, les postes, le four. Alors plus décalé, mais qui est une réalité, on a évoqué le casino de Gréoux-les-Bains. Voilà, donc c'est aussi un bâtiment civil. Alors poste, école et four, c'est ce qu'on va appeler des bâtiments civils public, hein, ils sont à vocation publique, même si le four au début avait été prévu pour passer entre les mains d'un privé, mais enfin, de fait c'est resté dans le bien public. Là à Gréoux, le casino est évidemment, je dis évidemment, il y a des communes où les thermes et les casinos sont en gestion publique, mais là dès le début ça a été une gestion privée. Donc le bâtiment d'actuel casino accueillait au départ, donc on montre le cliché là, qui date des années 1960, une clinique qui s'appelait la clinique des Jarres, qui était destinée en fait aux curistes malades, parce qu'évidemment les termes n'ont pas été créés à ce moment-là.
Jarre comme loi ?
Comme ?
Comme pour loi, le jarre.
Non, J-A-2-R-E-S, ah, voilà. Comme une jarre, une cruche en fait, hein, parce qu'évidemment c'est des termes, voilà, une jarre. En fait, cette clinique a été transférée ensuite à Manosque sous le nom de clinique Jean Giono, et donc elle est restée fermée quelques années, puis elle a été réhabilitée en casino du jeu dans les années 2000 par la compagnie européenne de casino, qui a été ensuite repris par l'établissement Partouche, hein, qui ont toujours le casino, je crois. Alors l'ancienne maison de jeu, qui est aujourd'hui disparue pour le coup, se trouvait dans le parc thermal. Alors, au début du XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que les sources thermales sont acquises en 1909 par Louis Roise, qui va entreprendre de nombreux aménagements, dont la rénovation d'une partie de ce qu'on appelait le Grand Hôtel et la construction d'un théâtre casino. Parce que qui dit activité thermale et casino dit aussi saison culturelle. Hein. C'est la caractéristique même des villes thermales, c'est qu'elles sont... Parce qu'évidemment, il faut occuper les curistes. Hein. Pour qui a fait une cure, on sait que ça ne dure pas bien longtemps les soins dans la journée, donc il faut occuper les curistes le reste de la journée. Et alors, donc Monsieur Roise, qui est donc propriétaire de l'établissement thermal et du casino, a été autorisé en 1909 à ouvrir dans des locaux distincts, un lieu où seront pratiqués, alors je cite, petits jeux de chevaux, du whist, du bridge, du bézig et du piqué. Alors moi je ne suis pas une grande joueuse, j'avoue que tout ça est un peu, hormis le whist et le bridge, les petits chevaux, le bézig et le piqué, c'est un peu plus obscur. Alors je crois qu'on avait cherché ce que c'était et je vois qu'on ne l'a pas marqué, mais bon. Alors, jusqu'au début des années 60, l'établissement est vraiment fréquenté, notamment pour ses salles de jeu. Hein. C'est un vrai intérêt. Spectacle de danse, concerts, pièces de théâtre. Et sa salle de spectacle est célèbre pour avoir accueilli les décors du cinéma du film Crésus, avec Fernandel. Et Relis. Voilà, ce qui est un film réalisé par Jean Giono. Voilà, donc finalement, ce fameux établissement est vendu en 62 et puis démoli en 1968 pour laisser place à l'actuel établissement thermal. Mais là aussi, hein, on voit que comment finalement une décision d'investir dans un équipement, quel qu'il soit, hypothèque hein, grandement l'avenir d'une commune, hein, Gréoux.
Oui, mais il n'y avait pas des impôts, puisqu'ils étaient implantés, qui redistribuaient aux municipalités. Ça ne marchait pas, non ?
Alors, les impôts, c'est-à-dire ?
Vu qu'il y a des impôts locaux, enfin, du fait d'utiliser le terrain, d'avoir une rétribution pour la commune, quelle qu'elle soit.
C'est intéressant, je n'en sais rien du tout. À mon avis, de toute façon, je pense que faudrait examiner un peu en détail comment ça s'était passé. Je sais pas du tout. De toute façon, la commune, elle avait forcément un bénéfice. Bon, aujourd'hui, clairement, il y a la taxe hôtelière. Hein. Voilà, ça c'est un bénéfice induit.
Mais quand je parlais d'impôts, taxes.
Voilà. Oui, sans doute. Alors après, j'avoue que je connais pas le détail des taxes qui étaient afférentes à ce type d'activité à cette période, début 20e. Mais je pense qu'on peut faire confiance aux collectivités et à l'État pour avoir trouvé un moyen d'avoir un retour sur investissement et un retour gagnant. Voilà. Donc il nous reste un tout petit peu de temps peut-être hein, pour évoquer un autre bâtiment civil. Les gendarmes. Voilà. La gendarmerie, parce que ça aussi, ça fait partie des bâtiments, quand on réfléchit bien, qui marquent le paysage. Hein. Je suis dans les bâtiments civils, hein. Il y a évidemment les églises, etc. Et j'avais parlé des lavoirs et des fontaines la semaine dernière, enfin, il y a un mois. Mais les gendarmeries. Et là aussi, l'implantation d'une gendarmerie, c'est tout un échange de courriers entre l'administration. Donc par exemple, à Mézel, Il y a une brigade de gendarmerie, à l'époque on appelait gendarmerie royale à cheval, qui est implantée à Mézel en 1817, hein, donc très tôt dans le 19e. Ensuite, elle devient brigade de gendarmerie départementale, et puis évidemment, en fonction des changements de régime politique, elle devient gendarmerie impériale, et puis finalement, gendarmerie nationale. Donc, avant son implantation à Mézel, il y avait la brigade de gendarmerie royale, qui était, elle, casernée au village d'Estoublon, qui est, elle, à 7 km au sud du village. Voilà, donc là aussi, hein, il y a des mouvements d'implantation en fonction. Alors, franchement, ce serait intéressant de savoir pourquoi, à tel moment, on implante une gendarmerie à tel endroit. Ça, on n'a pas forcément les dessous de l'histoire. Mais finalement, donc en 1817, on transfère la brigade à cheval à Mézel, dans une grande maison de la Grand-Rue. Alors là aussi, c'est intéressant de voir comment les gendarmes étaient... Parce que là, eux, ils vivaient vraiment avec leur famille, hein, pour le coup. Alors en 1817, la brigade à cheval, elle occupe ce logement jusqu'en 1856. En fait, c'est un bail, c'est en location, hein. 600 francs, une indemnité. Alors je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit par mois, je pense que c'est par an, parce que 600 francs, c'est beaucoup pour l'époque. Et alors donc, quelques mois plus tôt, en 1856, le maréchal de France, qui était ministre secrétaire d'État de la guerre, s'était plaint au préfet des Basses-Alpes, je cite, « très mauvais casernement, dont les chambres sont trop petites, l'écurie est séparée du bâtiment par un torrent qui offre les plus grands inconvénients et les plus grands dangers, elle est humide, il serait urgent dans l'intérêt du service, de la santé des hommes et des chevaux, de l'abandonner. » Et donc c'est pour ça qu'on construit une nouvelle caserne en 1856, et pendant un siècle, donc la gendarmerie de Mézel sera au quartier Saint-Sébastien. Voilà, ensuite il y a des transformations. En 1929, elle devient mixte. Alors ça ne veut pas dire que des femmes deviennent gendarmes, c'est qu'il y a une partie montée à cheval et une partie à pied. Puis elle devient brigade entièrement à pied, hein, le cheval étant abandonné progressivement avec la motorisation des gendarmes et de la société en général. Alors voilà, donc par la suite, les conditions de logement des familles et des gendarmes ne répondent plus aux normes contemporaines. Et donc là, on s'engage dans la construction en 1970-1971 d'un casernement moderne. Et cette caserne est implantée sur un terrain qui est cédé au département gracieusement par la municipalité mézélienne, qui voit évidemment son intérêt, parce que quand vous accueillez une brigade de gendarmerie, c'est une population qui vit sur place, hein. On voit le désastre que c'est quand une administration, quelle qu'elle soit, quitte un lieu. C'est forcément compliqué pour le commerce, les écoles, etc. Donc là, c'est un ensemble qui est composé de 5 logements. Donc on est dans les années 1970, bureau, garage, et qui est mis en service dès 1972. Il y a un 6e logement qui est ajouté en 1986. Donc vous voyez, là aussi, c'est de suivre ces chantiers. Hein, c'est vraiment une façon de voir l'évolution. Voilà, on passe du cheval à la voiture, la composition des familles, est-ce que c'est des grandes familles, des petites familles, les nécessités du confort, hein, des choses qui étaient acceptées, évidemment, au début 20e, ne le sont plus dans les années 70. Donc c'est vraiment... ces chroniques sont vraiment... J'engage nos auditeurs à jeter un œil dans notre ouvrage. Alors, je précise qu'il sera présenté au public et à la presse le jeudi 12 décembre aux archives départementales à 18h. L'entrée sera libre en présence des auteurs. Donc, le service a beaucoup contribué, mais il y a aussi des auteurs extérieurs. On a des archéologues, l'archiviste de Manosque, la responsable du musée de Villars-Colmar. Voilà, on a essayé d'ouvrir un petit peu l'accès à la rédaction de notices pour donner un ton aussi un petit peu différent, et puis que chacun puisse apporter sa vision du territoire au travers de ces clichés. Voilà, donc rendez-vous jeudi 12 décembre à 18h aux archives départementales.
Et pour ce qui concerne l'émission d'Histoire d'Archives, ça sera une semaine plus tard, le 19,
tout jeudi 19. Et ça sera avec M. Labadie, le directeur des archives départementales.
Merci Laure.
Merci Jean-Marc, merci à tous, au revoir.